Chers auditeurs, 11 ans après la dernière grande révision de la loi sur les épidémies en Suisse, les autorités veulent ancrer toutes les mesures appliquées durant la crise Covid sans aucun regard critique dans la loi. Leur démarche semble plus vouloir appliquer à tout prix une centralisation des décisions en matière de santé à l'Organisation mondiale de la santé, une organisation de plus en plus liée au pharma, que de chercher véritablement le bien commun et d'apprendre des leçons de la crise Covid. Le projet est en phase de consultation et chaque citoyen peut adresser ses remarques jusqu'au 22 mars 2024 auprès de l'Office fédéral de la santé publique. Nous avons contacté la naturopathe Alina Laferte ainsi que Werner Boxler, ancien co-président des Amis de la Constitution, pour comprendre les enjeux de cette révision et saisir la chance de participer au dialogue démocratique. Vous trouverez toutes les références de ce podcast en cherchant le numéro 16555 sur le site radiolibre.ch. Bonne écoute.
Expression libre.
Bonjour Alina, nous t'accueillons aujourd'hui pour la révision de la loi sur les épidémies. Tu as lu les 30 pages de la proposition qui est en consultation actuellement au niveau suisse. Et quelle a été ta réaction quand tu as lu ces 30 pages ?
Alors la première réaction, j'étais choquée en fait. J'étais choquée par le contenu de cette révision, tout simplement parce que ça m'a fait revivre ce qu'on a vécu pendant la période Covid. Donc tout ce qu'on a vécu pendant cette période est résumé noir sur blanc sur cette révision de la loi sur les épidémies. Et donc ça m'a vraiment fait froid dans le dos.
Donc concrètement, voilà. Quelles sont ces nouveautés qui vont être peut-être incluses dans la loi sur les épidémies ?
Alors les nouveautés, c'est entre guillemets des nouveautés parce que c'est effectivement ce qu'on a connu. C'est-à-dire que pour résumer, ça reprend toutes les mesures liberticides qu'on a connues. La fermeture de l'économie, le pass sanitaire, enfin, le certificat Covid est dedans également. Il y a évidemment la petite carotte avec les aides financières, mais très conditionnées. Il y a éventuellement l'obligation vaccinale pour des groupes de personnes, sans jamais vraiment définir ce que seraient ces groupes de personnes. Mais ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que c'est le Conseil fédéral qui aurait la main absolue sur toutes les décisions. Donc je crois que même les cantons seraient un minima à consulter, mais au final, c'est le Conseil fédéral qui valide les mesures et puis qui prend toutes les mesures, qui met toutes les mesures en place, en fait. Les mêmes mesures qu'on a connues pendant le Covid.
Et selon toi, qu'est-ce qui n'a pas été correct de la part du Conseil fédéral pendant cette pandémie en termes de mesures ?
Je pense qu'il y a eu une panique. Alors, je peux comprendre que quand c'était au tout début, personne ne savait ce qui se passait. Tous les pays autour de nous prenaient des mesures assez drastiques, fermeture des frontières, etc. Donc, moi, je crois qu'il y a eu de la panique. Il y a eu surtout un manque de bon sens. Puis, il y a eu aussi un manque de débat réellement scientifique, ouvert et pluridisciplinaire. J'entends, c'était si on n'était pas d'accord avec ce que disait l'OFSP ou la Task Force, on était forcément marginalisés. Et puis d'autres experts auraient pu intervenir et donner un point de vue un peu différent pour peut-être déjà éviter de faire paniquer la population, parce que on se rend bien compte après coup qu'il n'y avait pas forcément de quoi faire paniquer tout le monde, de quoi restreindre l'économie, de quoi fermer les écoles, par exemple aussi. C'était une mesure complètement aléatoire, absurde, dénuée de tout bon sens et puis basée sur rien. Le port du masque obligatoire, ça a été également, à mon avis, plus un mal qu'un bien au final. On a eu, après coup, des bronchiolites chez les enfants. Enfin, il y a eu le contre-coup de toutes ces mesures au niveau psychologique, au niveau sanitaire, mais pour les catégories plus jeunes, a été terrible, terrible. J'entends bien que c'était compliqué de faire la part des choses parce qu'il fallait ménager les hôpitaux, mais dans un certain sens, on aurait peut-être pu aussi laisser les médecins prescrire, les médecins soigner. Ça aurait été, peut-être ça aurait permis de désengorger certains hôpitaux.
D'accord, donc selon toi, ce travail de réflexion critique n'a pas encore eu lieu et puis donc on se retrouve avec les mêmes mesures qui ont été prises en vrac pendant la pandémie sans un regard critique par exemple aussi sur les conflits d'intérêts, sur la pertinence de ces mesures, parce qu'on a vu qu'il y a comme Daniel Cohr, le premier monsieur Corona, qui est revenu justement sur la plupart des mesures qu'ils ont édictées. Donc pour toi, c'est ce travail qui manque actuellement?
Alors ils essayent de nous faire croire qu'ils le font. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va faire le bilan de cette période et pour essayer de voir qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui n'est pas à garder, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Mais ce travail de bilan, il est, j'ai presque envie de dire malhonnête, parce que toutes les mesures qui n'ont pas fonctionné, finalement, en fait, on veut nous faire croire qu'elles ont fonctionné. Je prends l'exemple des masques. On veut nous faire croire que les masques ont été bénéfiques et ont sauvé des vies. C'est faux. C'est archi faux. Et il y a plein d'études qui montrent tout le contraire. Donc, pourquoi masquer des enfants? Pourquoi masquer des gens dans les bus? Pourquoi masquer des gens? J'entends, il y avait aucun fondement scientifique pour faire ça. Mais, dans le bilan, on nous explique que ça a sauvé des vies, que c'était magnifique, que c'était génial et que s'il faut le remettre, on le remettra. Et donc, ça paraît dans la loi, en tout cas dans la révision.
D'accord. Et toi, est-ce que tu vas justement participer à cette consultation en envoyant une lettre à l'OFSP? Qu'est-ce qui est possible de faire en tant que citoyen?
Alors, ce qui est possible de faire d'abord, ils ont mis en place un formulaire qui est assez long, hein. C'est vrai que ça demande du temps, ça demande un investissement. Donc, il faut aller sur le site de l'administration fédérale, il faut aller chercher ce formulaire. Et puis, c'est un formulaire donc, de consultation où on répond article après article, ce qu'on est d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord, et on doit argumenter pourquoi on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord, etc. Donc ça demande du temps, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça demande à ce qu'on lise avec attention aussi tous les articles de loi de cette révision. Et une fois qu'on a rempli ce formulaire, il faut l'imprimer, il faut le signer et il faut l'envoyer par email. Donc il y a l'adresse qui est mentionnée aussi sur le site. Alors, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. On peut aussi écrire des lettres, évidemment, pour répondre. Mais le formulaire, il est assez complet. Donc, on peut, article par article, donner notre point de vue, en fait. Et ça, c'est intéressant. On a un délai au 22 mars pour répondre à cette. Donc, cette consultation est ouverte. Elle s'est ouverte l'année passée. Et elle se ferme le 22 mars 2024, maintenant, donc la semaine prochaine. Et il faut le faire rapidement. Et puis ensuite, il y aura en principe l'agenda qui est indiqué dans cette révision. C'est que, donc, il y a le débat parlementaire 2025-2026 et l'application, la mise en vigueur de la loi à partir de 2027 déjà.
D'accord. Donc on a bien compris, le problème de cette proposition, c'est qu'elle a été élaborée par les mêmes fonctionnaires, certainement à l'OFSP, qui ont déjà pris des mesures qui n'étaient peut-être pas forcément pertinentes ou efficaces. Et donc on se retrouve au statu quo sans avoir eu de débat. Donc je te remercie pour ton intervention. Est-ce que tu as quelque chose à
Je t'en prie.
rajouter par rapport à toute cette procédure et à tous ces événements qui se chamboulent?
Il y a aussi la question, notamment ça, c'est pour répondre par rapport au conflit d'intérêts, c'est que le Conseil fédéral peut octroyer des fonds publics aux laboratoires pour faire de la recherche et donc pour mettre à disposition des nouveaux médicaments. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils arrivent à tourner les phrases de manière à ce qu'on ait l'impression que c'est pour notre bien, que c'est pour notre protection, que c'est pour éviter une pénurie d'antibiotiques, par exemple, etc. Donc ça regroupe pas mal de choses. Mais tout le reste y est, hein, le traçage, le certificat, tout y est absolument. Et puis il y a des termes parfois qui sont quand même encore très flous. Par exemple, on dit, voilà, les médecins seront obligés d'annoncer à l'OFSP les cas de leurs patients qui sont effectivement malades. Bien entendu, c'est aussi le Conseil fédéral qui détermine quels sont les tests diagnostiques valides et quels sont les tests diagnostiques qui ne sont pas valides. Ça nous rappelle quand même là aussi la parenthèse PCR. Ils sont obligés, les médecins seront obligés également de remonter les cas des gens présumés malades ou présumés infectieux. Enfin voilà, c'est toujours très très flou, c'est pas net et moi ça me fait peur, vraiment.
Merci pour cette contribution. Certainement qu'on entendra encore ta voix pour commenter les résultats de cette consultation. Voilà. Merci d'avoir lu.
Oui, je vais suivre ça.
Voilà, merci d'avoir lu ces 33 pages pour nous et puis on se redit. Merci.
Merci.
Expression libre. Libre. Libre.
Bonjour chers auditeurs, nous accueillons aujourd'hui Werner Boxler. Bonjour Werner.
Bonjour Charlie.
Alors Werner, toi, tu étais une figure très connue publiquement, vu que tu étais le coprésident des Amis de la Constitution et leur porte-parole pour la Suisse romande à l'époque où le Covid et les votations aussi sur les lois Covid battaient leur plein. Bienvenue et aujourd'hui, on va parler de cette révision de la loi sur les épidémies, donc qui se base sur les expériences reconnues par le système étatique cumulées durant la période Covid. Et donc, ces expériences vont mener à
des réformes. Et ces réformes, en fait, de la loi sur les épidémies sont actuellement en consultation. Maintenant, j'aimerais revenir en arrière, parce que cette loi sur les épidémies, la dernière fois qu'elle a été modifiée, c'était en 2013. À l'époque, j'étais de l'autre côté du micro, je faisais partie de ceux qui défendaient le non à sa révision. Et je te propose, Werner, d'écouter un extrait que j'ai choisi dans le débat final après la votation. Donc nous avions perdu à 40% hein, contre 60%. Et puis de faire réagir sur les propos de Stéphane Rossini, qui était un conseiller national valaisan, socialiste, proche d'Alain Berset, qui ensuite, par la suite, a été nommé président du conseil de Swissmedic, qui depuis 2019 est directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, et d'Urs Schwaller à propos de cette révision.
Stéphane Rossini, Christelle Lomangeau a bien résumé, les citoyens et citoyennes suisses suivent le Conseil fédéral aujourd'hui, c'est aussi votre analyse?
Bah, je pense que c'est pas une analyse, c'est un constat.
Oui, c'est
un constat
juste.
assez clair. Non, moi, ce qui me réjouit plus particulièrement, c'est que la loi sur les épidémies ait été acceptée, parce que je crois que là, vraiment, on répond au bon sens et aux besoins de sécurité de la population. On répond à un vrai problème de santé publique, de protection de la société et des individus. Et je crois qu'aujourd'hui, ça me paraît être le résultat, vraiment le plus important pour l'ensemble de la population. On avait sur ce thème de la loi sur les épidémies une espèce de paranoïa de quelques fondamentalistes autour de la vaccination, alors que cette loi, je dirais, atténuait le pouvoir qu'avaient les cantons jusqu'à présent avec la loi de 1970.
Paranoïa de quelques fondamentalistes, ce sont vos propos à l'instant. Charlie Pache, vous êtes président du comité romand non à la révision sur la loi sur les épidémies. Vous vous sentez paranoïaque et fondamentaliste?
C'est clair, quand j'entends ces propos, je me demande si je pourrais pas bientôt créer une secte.
Vous pensez que les Suisses n'ont pas vraiment lu le texte? C'est ce que vous dites, Charlie Pache?
Je suis persuadé.
Qu'on n'a pas été regardé dans les coins.
J'en suis persuadé.
En tout cas, les parlementaires ont fait un travail très approfondi, M. Schwaller pourra le dire aussi, avec un grand sérieux. Et je crois que cette loi, elle va beaucoup plus loin que le problème du vaccin.
Alors,
effectivement, cette loi va beaucoup plus loin que le problème du vaccin. Et je suis persuadé, en ayant été au centre des débats, en ayant lu la révision, les messages du Conseil fédéral et la loi, qu'il y a un problème au niveau des conseillers nationaux qui se fient plutôt à leurs collègues auxquels ils font confiance plutôt que lire la loi. Et qu'on vit effectivement dans une société plutôt où on a une sorte de culte de l'apparence et de la légitimité qui fait que malheureusement les citoyens par eux-mêmes ne font plus l'effort d'aller lire les textes. Du moment qu'il y a eu des débats, ben, on a eu l'occasion de nous faire entendre, mais effectivement on a eu un conseiller fédéral en face de nous qui avait une légitimité puis un accès aux médias qui était très grand par rapport aux nôtres, et c'est ça qui a posé problème. Après, du moment qu'il y a eu des débats, effectivement on a pu exprimer notre avis, et la plupart des gens auxquels on a pu parler, ben, ils se sont rendus compte que peut-être il y avait des points noirs et ça valait la peine de lire le texte.
Je précise que sur les ondes de la RTS, nous avons été tenus, et c'est bien normal, et nous l'avons respecté, le parfait équilibre en termes de temps d'antenne. Hein.
Donc, je peux me permettre de dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça.
Alors écoutez, il faudra faire les calculs. Mais
oui, volontiers.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat.
Mais pour ce qui est de la loi sur les épidémies, à mon avis, il fallait absolument maintenant procéder à cette modification. C'est une loi qui date effectivement du siècle passé. Aujourd'hui, nous constatons la mobilité augmente, nous avons l'urbanisation qui ne cesse de progresser. Nous avons également des mouvements migratoires, des changements climatiques. Il fallait donc l'adapter. Puis, il était clair pour une majorité qu'il n'y aura pas d'obligation finalement de se faire vacciner. Mais pour moi, il est évident que, par exemple, dans un hôpital, si je suis en contact aussi avec des patients, il faut que j'ai la base légale pour m'imposer cette obligation. C'est une question de santé publique. Le pas qui a été fait est logique et le débat en soi n'a pas eu lieu.
Charlie Pache, vous craignez l'obligation, j'allais dire, longitudinale.
Donc là, je viens d'entendre deux propos contradictoires, donc il n'y a pas d'obligation, mais qu'il y en aura quand même une.
Vous écoutez Radio Libre.
Voilà Werner, donc on l'entend, un socialiste qui parle de besoin de sécurité, de protection, qui reproche à 40% de la population finalement qui avait voté contre cette révision d'être des paranoïaques fondamentalistes. On parle aussi d'atténuer le pouvoir des cantons et on trouve ça bien, alors qu'effectivement ça a été centralisé à la Confédération, et puis on peut se demander si c'était une bonne chose. On a vu que le Conseil fédéral berçait à l'époque était omniprésent dans les médias et faisait de l'ombre en fait au débat lui-même. À l'époque d'ailleurs, les journaux titraient que Berset disait que personne ne sera forcé de se faire vacciner contre son gré. Alors Werner Boxler, à entendre tous ces propos d'il y a une dizaine d'années, est-ce que vous pensez que le dialogue cette fois sera possible ?
Alors, le dialogue n'a pas été réellement possible pendant le temps de Covid. C'est ce que, justement, a fait que je me suis engagé en tant que co-président des Amis de la Constitution à l'époque, parce que je voulais que ce dialogue soit instauré. Et malgré le fait que nous avons écrit une douzaine de lettres au Conseil fédéral, ben, il n'y a eu aucune réponse de la part du Conseil fédéral. C'est comme si ces lettres n'existaient pas. Et puis pour moi, c'est vraiment ça la base de ma compréhension de la démocratie directe, c'est qu'il y a le dialogue. Et le dialogue, ça permet de se forger une opinion, un avis que chacun peut défendre, chacun peut se forger à travers les discussions. Et puis, il arrive à un éclaircissement pour pouvoir donner son consentement libre et éclairé, hein, comme on le dit chez le médecin. Je n'accède que à partir de ma liberté à un acte médical. Et puis, quand on regarde le temps de Covid, en fait, il y avait 2/3 qui étaient contre la vaccination, 2/3 de la population. Je dis ça, ça ne corrobore pas avec les chiffres officiels où on dit plutôt que 2/3 se sont fait vacciner ou 60% de la population suisse. Mais bon, quand je discute avec les gens, je vois qu'un tiers y croit. Un deuxième tiers a fait ça par commodité, s'est fait finalement laisser convaincre pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller à l'université, pour pouvoir aller rien qu'à l'hôpital pour se faire soigner. Un tiers a cédé à cette pression et un autre tiers était fondamentalement contre, il est toujours contre de se faire injecter un produit expérimental. Alors donc, quand j'entends ce discours du politicien du Conseil national d'avant, je dois dire, ben, il y a en fait un dialogue de sourds. Et ce dialogue de sourds, moi je souhaite que nous puissions aller dans le dialogue, échanger, regarder les différents éléments, et de venir à un pluralisme d'opinion et un pluralisme d'avis.
Très bien. Plusieurs journalistes, 23 journalistes, viennent d'écrire un livre « Sans diversité, pas de journalisme » et qui parle justement de cette présence des opinions divergentes dans le débat démocratique. Est-ce que durant le Covid, est-ce que c'était comme il y a une dizaine d'années, par rapport à l'équilibre des débats, est-ce que votre opinion, en tant que co-président des Amis de la Constitution et partisan du non à la loi Covid, est-ce que vous estimez qu'à l'époque de la période Covid, votre temps de parole a été légal du temps de parole des personnes qui étaient favorables à cette loi?
Alors déjà, nous n'étions pas reconnus comme partenaire officiel, entre guillemets. Nous avons dû faire nos propres conférences de presse pour avoir un média. Et pour la première votation sur la loi Covid, qui a eu lieu le 13 juin 2021, ben nous n'avons pas été à l'infrarouge, nous n'avons pas été invités par les médias mainstream. Ce qui veut dire, non, on n'a pas eu le temps de parole. Ça s'est un tout petit peu corrigé pour la deuxième votation qui avait lieu le 28 novembre 2021. Parce que, entre deux, ben, les Amis de la Constitution ont été forts de 26 000 membres. En 17 mois, on a eu un afflux de membres. Et puis, ceci a fait de nous un partenaire, soutenu évidemment par l'intercollectif suisse-romande et aussi suisse-allemande. Et à partir de là, on avait plus de temps de parole. N'empêche que ça tranche avec les conférences de presse qui ont été accordées au gouvernement chaque mercredi après-midi et qui ont duré normalement 1h30. Évidemment, c'était une goutte dans l'océan par rapport à ce qu'on a accordé au gouvernement, à la task force et puis ce qu'a dit la presse tous les jours dans les médias, ce qu'a dit la radio en faisant peur à la population en parlant des morts, comme si c'était extraordinaire qu'on avait des morts en Suisse, quoi.
Donc, il y avait encore beaucoup de choses à améliorer. On espère maintenant, avec ces journalistes qui sont venus sur le devant de la scène pour parler de ce manque de diversité, les choses vont évoluer. Là, on est très tôt dans le processus, hein. Il s'agit de la consultation. Ça veut dire que la consultation, c'est préalable aux travaux des deux chambres du Parlement qui vont venir avec un projet de loi final qui sera soumis à un délai référendaire pour de nouveau récolter des signatures et à nouveau probablement voter devant cette révision de la loi sur les épidémies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, il y a une mobilisation quand même qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait vu il y a 10 ans pour la première révision. C'est qu'il y a des mouvements citoyens qui sont toujours alertes et qui ont pris les devants. Peut-être que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé.
Alors, effectivement, le temps de Covid, je peux dire grâce au temps de Covid, les réseaux se sont faits, les personnes qui étaient esselées au début des mesures Covid au printemps 2020 se sont trouvées grâce à ces mobilisations à travers la Suisse et aussi d'ailleurs à travers le monde. Il y a des Suisses à l'étranger qui se sont mobilisés et on peut dire que ce réseau a un petit peu veillé, c'est un petit peu, comment je veux dire, mis en veille. Mais là, je constate que les personnes qui se sont mobilisées pendant le temps de Covid sont au taquet. Aujourd'hui, je constate que nous sommes 100 000 personnes à travers la Suisse à être éveillées. Et puis, ça change la donne. Évidemment, la question c'est, est-ce que c'est 1,35 million de citoyennes et citoyens qui ont dit non à la loi Covid? Est-ce qu'on va pouvoir les ignorer à travers la révision de la loi sur les épidémies ou est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Est-ce que les 40% de Suisses et Suisses ont droit à faire entendre leur voix, même si on dit, bah oui, on a perdu la votation, mais n'empêche que 40% de la population sont pas d'accord avec ces mesures. Alors, qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir les rassurer? Qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir trouver une solution qui tient compte de la pluralité des opinions à travers la Suisse? Alors donc ça, c'est la question que personnellement j'envoie aux décideurs, entre guillemets, parce que les décideurs ne sont pas forcément ceux qui sont dans les autorités. Là-dessus, j'aimerais aussi m'exprimer, mais peut-être par la suite.
D'accord, très bien. Donc maintenant, concrètement, le délai de la consultation court jusqu'au 22 mars 2024. Et donc, quels sont les outils qui sont à disposition des citoyens pour réagir et participer à ce dialogue et à ce débat?
Alors, il reste exactement encore une semaine où chacun et chacune peut encore envoyer une lettre à l'OFSP pour donner son avis sur la question, parce qu'on est en consultation. Et puis, c'est le premier pas, quelque part, qui permettra après au Parlement et au Conseil fédéral de faire cette révision en connaissance de cause sur la base des avis des uns et des autres. Donc voilà, je peux tout simplement dire, si vous vous sentez interpellé par cette révision, c'est important de prendre un exemple de lettre qui circule sur plusieurs canaux. Vous pouvez le modifier ou le prendre tel quel et l'envoyer encore cette semaine jusqu'au 21 mars pour qu'elle arrive le 22 mars. C'est la fin de la consultation.
D'accord, Werner Boxler. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce projet de consultation de la nouvelle loi sur les épidémies?
C'est que toutes les mesures liberticides qui ont été décidées pendant le temps de Covid sont reprises dans la révision. Il y a le contact tracing, il y a les certificats de vaccination, de tests de guérison, il n'y a pas de liberté, comme moi je veux dire, il y a les traitements médicaux qui sont unilatérales, on ne parle que de vaccination dans cette révision et pas d'immunité naturelle comme on l'a renforcé, on ne renforce pas la liberté des médecins de traiter. Il y a donc ce qui m'inquiète le plus, c'est que d'une part, il y a une absence de dialogue sur la base. Le fait qu'on n'a pas fait une enquête sur les mesures, sur les masques, est-ce que la distanciation était pertinente, est-ce que de fait d'enfermer les aînés dans les EMS, d'empêcher les jeunes de sortir et d'être en contact. Tout ça n'a pas été étudié jusqu'au bout avant de pouvoir couler une loi urgente dans une loi ordinaire et régulière avant de donner les pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour les années à venir ou les dizaines d'années à venir, ben, il faut faire ce travail. Et ce travail passe forcément par un dialogue. Il y a un changement de paradigme qui passe de la surveillance des maladies à la surveillance et à la déclaration des personnes. Donc, on veut désormais surveiller les personnes. Et puis ça m'inquiète beaucoup parce que s'il faut commencer à prouver qu'on est en bonne santé, comme on a dû le faire pendant le temps de Covid, ça veut dire on met la charrue avant les bœufs. À la place de soigner les malades, on s'acharne sur les bien portants qui ont du mal à prouver qu'ils sont en bonne santé, quoi. Alors donc, c'est ça qui m'inquiète énormément, le renversement de paradigme et de faire croire que chacun est un potentiel porteur d'une maladie et puis d'être regardé comme cela, ça clive. Et ce clivage qui a eu lieu pendant le temps de Covid, en fait, il faut le transformer, il faut réinstaurer le dialogue et puis aussi faire une réconciliation en Suisse et dans le monde. C'est indispensable et j'œuvre pour cela. Sinon, c'est une dictature sanitaire qui va venir parce que si la doxa emporte sur les avis pluriels, je veux dire, on met une minorité ou un tiers, voire deux tiers de la population dans une situation épouvantable et puis ça signifierait une dictature sanitaire.
C'est ce qui est le plus surprenant presque, parce que lors de la crise du H1N1 en 2009, il y a eu ce travail critique qui s'est fait après coup et qui a mis en lumière les liens un peu obscurs au niveau de l'Union européenne, du rôle de l'OMS, du déclenchement de financements qui sont allés dans les poches des pharma. Et donc, il y a eu tout un travail critique par rapport aux vaccins, par rapport aux décisions, et un travail qui n'a pas encore eu lieu et qui n'a pas l'air, donc toutes ces révélations ou ces critiques n'ont pas l'air d'être prises en compte actuellement dans la consultation de cette loi. Par exemple, on a vu Daniel Cohr, qui était le premier monsieur Corona, qui a publiquement dans des interviews revenu sur quasiment toutes les mesures qu'ils avaient prises, hein, que ce soit le confinement, les masques, etc. Et on a l'impression que ça n'est jamais pris en compte. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez?
Oui, tout à fait. Alors donc, effectivement, Daniel Cohr, il est revenu et malgré le fait qu'il a été un modéré par rapport à d'autres pays, il est revenu sur ses déclarations parties et puis je le salue et je voudrais souligner que Daniel Cohr, ben, il a dit qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin, notamment en faisant du tort, en enfermant les gens, les jeunes et les vieux et aussi les enfants. Et puis ça, moi je suis content qu'il ait fait cette déclaration-là. Ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que en fait, le traité avec l'OMS, hein, qui a discuté, ainsi que la révision de la loi sur les épidémies, vise justement à instaurer le fait que les choses deviennent contraignantes. Que quand l'OMS décide qu'il y a une pandémie quelque part, ce n'est plus une recommandation comme avant ou comme aujourd'hui encore, mais ça peut devenir contraignant. Et puis, ça veut dire que si l'OMS décide que la Suisse est en danger, mais c'est en fait l'OMS qui décide à la place de notre gouvernement. Et ça veut dire, même le gouvernement, il y a déjà trop de pouvoir pour moi, parce qu'en fait, la subsidiarité de la Constitution suisse fait que les cantons sont souverains en matière de santé et surtout l'individualité. Chacun est responsable de sa santé, on ne peut pas la déléguer à l'OMS. Et c'est surtout à dire que l'OMS n'est pas un organe démocratique, c'est principalement financé par des particuliers, par exemple Bill et Melinda Gates Foundation, et puis il y a donc forcément des intérêts qui sont là derrière. Et puis de donner quasi la gouvernance mondiale de santé à un organe non démocratique, ça reviendrait à abolir la souveraineté de la Suisse. Et c'est ça, et des cantons, hein, par la subsidiarité. Et ce qui est important, c'est que la Suisse garde la main sur les décisions et ne le délègue pas à l'OMS qui peut après faire ce qu'on veut avec n'importe quelle population sur cette planète. Donc je dis clairement non à cette VIET. La constitution suisse, d'ailleurs, interdit au Conseil fédéral de renoncer à la souveraineté. Donc, c'est clair que dans le préambule, seul est libre celui qui use de sa liberté. Et pour moi, c'est clair, aucun organe, aucune autorité peut décider à ma place. En tous les cas, je le dis déjà, j'avertis déjà, on ne peut pas décider à ma place. Donc, quoi qu'il arrive, mais je préférais que ça se fasse sans bataille, que nous ayons ce dialogue dont je parle avant, et puis que ça permet à chacun de vivre en paix dans notre pays et dans le monde entier. Alors, c'est un appel au dialogue et à l'échange, et à se forger les opinions, et puis surtout de trouver des solutions qui conviennent à tout un chacun, à toute une chacune.
Merci beaucoup, Werner Boxler. Effectivement, ça me rappelle aussi un entretien qu'on avait eu avec le docteur Segesser, qui parlait de ce changement de paradigme au sein de la médecine, où les médecins deviennent des exécutants de décisions qui sont prises par des fonctionnaires, alors qu'à l'époque, justement, la médecine était plutôt axée sur l'individu, et on ne prenait pas une décision pour tous, mais c'était plutôt une relation personnelle entre le médecin et le patient, et que là, on est en train de changer complètement le paradigme, et puis on voit cette centralisation qui est passée en 2013, c'était du canton, les décisions sont passées du canton à la Confédération, et maintenant, peut-être, avec cette nouvelle révision et les traités pandémique, que ça va passer de la Confédération à l'OMS. Donc, merci d'avoir analysé cette thématique avec nous ce matin. Je suis certain qu'on va encore en parler bientôt ensemble parce que ce projet n'est pas terminé. Bon retour chez vous et puis tout bon pour la suite.
Merci Charlie Pache pour cette initiative et bonne journée.
Radiolibre.ch, un rendez-vous 24 heures sur 24 sur l'actualité suisse et internationale sans censure.